Alors, la question de la recommodification fait une bonne transition vers mon intervention. Mais je voudrais d'abord dire que c'est la première fois que je participe à un séminaire du Centre de droit public. Et je voudrais remercier, j'en suis très contente, et je voudrais remercier à la fois Manuel Paulino et les organisateurs du séminaire du Centre pour cette invitation. Et mon intervention, qui comprend essentiellement 4 points, vise surtout à apporter des éclairages un petit peu économique, mais surtout politique, pour savoir comment on en est arrivé là. Et c'est vrai qu'on ne peut pas comprendre les enjeux qui touchent aujourd'hui tous les services liés à la sécurité sociale, entendu au sens large, sans les replacer dans leur contexte. Et je commence toujours par rappeler, donc c'est le premier point, qui me paraît particulièrement problématique, que l'Union européenne n'a pas de politique des services publics. Et c'est bien là que se noue en fait l'ensemble de ces enjeux. Et pour revenir à ton interpellation au début de ton intervention sur cette question d'avoir une vision positive et pas uniquement toujours une logique dérogatoire par rapport aux services publics, c'est vrai qu'il faut bien comprendre que c'est la politique de concurrence européenne qui impacte indirectement les services publics. Et qu'on est face à une situation asymétrique de manière structurelle, dans la mesure où on sait bien que la Commission européenne, en matière de politique de concurrence, a des compétences qui sont à la fois anciennes, qui sont fortes et qui sont exclusives, alors qu'en termes de politique sociale en général et par rapport aux services publics en particulier, ces compétences sont essentiellement résiduelles et que, dans la théorie du moins, ce sont les États membres qui détiennent toujours l'initiative. Par rapport à la question de la vision dérogatoire et négative de la politique des services publics, ce qui n'aide pas, c'est qu'il y a aujourd'hui aussi clairement, au sein de l'opinion publique, il y a des sondages qui sont faits parfois, il n'y en a pas beaucoup, mais sur cette question-là, et qui démontrent que pour une série de raisons qui restent encore assez largement à analyser, les opinions publiques elles-mêmes sont assez, voire très réticentes à de nouvelles compétences de l'Europe dans ces questions, à de nouvelles émissions. Et donc forcément, ça influe sur les positions des différents gouvernements. Et donc on a un climat très clair de crispation sur la question de la subsidiarité, qui est, pour en revenir à la question du protocole qui a été introduit dans le traité de Lisbonne, qui est la principale raison d'être et la principale signification de ce protocole, qui vise essentiellement la défense de la subsidiarité et des compétences des États membres, plutôt qu'elle ne permet à l'Europe d'avoir de nouvelles compétences. Le deuxième point, c'est qu'il faut bien comprendre aussi que les questions qui touchent aujourd'hui la sécurité sociale sont, je ne sais pas si je peux dire l'aboutissement, puisqu'on n'est pas nécessairement à la fin de toutes ces évolutions, mais en tout cas s'inscrivent clairement dans des évolutions, dans des tendances lourdes qui sont à l'œuvre depuis la seconde moitié des années 1980, puisque les pays qu'on appelle industrialisés, en réalité, ont aujourd'hui des économies qui reposent essentiellement sur le secteur tertiaire et le secteur des services. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, les services, c'est aujourd'hui environ 70% du produit intérieur brut européen, 60% de l'emploi. Et les services publics eux-mêmes, donc entendus au sens large, fourniture de services qu'on appelle de réseau, électricité, transport, etc., et services sociaux confondus, représentent aujourd'hui 26% du PIB européen et environ 30% de l'emploi. Donc ce sont vraiment des chiffres extrêmement significatifs. Et au moment où la commission de Jacques Delors a proposé donc, plus qu'une relance, cette véritable construction d'un marché intérieur européen, évidemment, au fur et à mesure, étant donné le poids de ces activités, on est arrivé et le néolibéralisme ambiant des années 80 aidant également à la conclusion que l'ensemble de ces services ne pouvaient pas rester ad vitam aeternam totalement exclus de la logique de marché et de la logique de concurrence. Donc il y a eu en effet une série de directives de libéralisation. Donc rapidement, pour vous donner une idée de nouveau, ça a commencé avec les télécommunications en 88, l'audiovisuel en 89, le rail en 91, l'électricité en 96, la Poste en 97, le gaz en 98, etc. etc. Et à chaque fois, ces directives donc, commencent à libéraliser une section très réduite des marchés, mais sont révisées à intervalles très réguliers. Donc on a des paquets qui sont révisés, la Poste, on est arrivé à la libéralisation totale en 2009, etc. Et on a eu aussi, premier pas très limité, une directive sur le droit des patients en matière de soins de santé dans les contextes transfrontaliers. Donc troisième point, quelle a été la dynamique politique de ces débats sur les services d'intérêt général et les services qui a mené aux services sociaux. Donc je ne reprends pas tout ce qu'a expliqué évidemment Manuel Paulillo, mais moi je me suis concentrée à titre personnel dans mes travaux sur ce débat qui a commencé avec le traité d'Amsterdam et qui s'est accéléré en 2000, de 2000 à 2007, et je suis bien d'accord sur le fait qu'il s'est arrêté véritablement en 2007, qu'il n'y a pas eu d'avancée dans les idées ou dans les textes depuis. Donc l'idée, c'était de savoir si on voulait avoir une directive de re-régulation des services publics au niveau européen. L'idée d'une nécessaire libéralisation étant relativement acquise. Donc on dit, ok, on a un marché intérieur, donc il faut unifier, permettre aux entreprises de fournir des services dans différents pays, au-delà des frontières, avoir des règles plus simples, donc déréguler dans une certaine mesure et libéraliser. Mais ce serait bien peut-être aussi d'avoir un texte qui permettent d'avoir des standards communs donc, et de re-réguler tout cela au niveau européen et de contrebalancer la poursuite incessante de la libéralisation et d'assurer donc, tout ce qui est l'accessibilité, la qualité des services publics, l'équité, la continuité, etc., etc. Donc au niveau des dynamiques politiques, je dirais qu'il y a trois facteurs qui ont pesé sur ce débat, et donc il n'y a pas beaucoup de suspense. Hein, cette discussion dans l'ensemble des institutions européennes sur une éventuelle directive européenne n'ont absolument pas abouti et sont dans l'impasse depuis 2007 et sont même très loin d'être de nouveau à l'ordre du jour. Donc trois facteurs sur un plan politique essentiellement. Premièrement, le conservatisme des États membres. Donc ce qu'on appelle en sciences politiques les sentiers de dépendance institutionnelle au niveau national, donc une réticence en quelque sorte un peu naturelle dans le chef des États membres à modifier leurs propres systèmes réglementaires qui sont bien entendu ancrés dans des traditions longues, dans des philosophies, des conceptions philosophiques de l'État, etc., au profit de règles européennes nouvelles qui sont nécessairement des compromis entre des systèmes très disparates. Deuxième facteur, les logiques sectorielles qui ont été bien installées avec toutes les directives de libéralisation, qui, mis à part la directive service qui est horizontale, ne sont que des directives sectorielles. Donc quand on a libéralisé le gaz, le transport, etc., on a établi des règles qui sont par définition sectorielles. Et donc tout ça fait, d'un point de vue juridique, un ensemble extrêmement disparate, extrêmement complexe. Et au moment où on a tenu des discussions pour savoir si on pouvait et s'il était opportun d'avoir une directive cadre qui surplomberait l'ensemble de ces textes sectoriels, les acteurs concernés dans les différents secteurs, bien souvent, étaient incapables de se mettre d'accord, de former une coalition qui puisse véritablement peser sur le processus décisionnel, étaient eux-mêmes réticents. Et dans un climat d'incertitude de savoir si les nouvelles règles générales leur seraient plus favorables que les règles sectorielles déjà établies ou non. Et troisième aspect, évidemment les aspects idéologiques et les aspects de discours, de déroulement des discussions dans les débats, où notamment au Parlement européen, on avait au départ plutôt une majorité favorable à une re-régulation, et puis tout cela s'est effrité au fil des années, entre 2000 et 2007, sachant qu'on a eu entre-temps également des élections européennes qui ont modifié, qui ont renforcé les conservateurs et les libéraux au sein du Parlement européen. Et on a eu, chez les acteurs initialement le plus favorables à la régulation, donc essentiellement les sociodémocrates, pour parler de ceux qui sont un peu plus significatifs en termes numériques, évidemment la gauche de la gauche et les verts, qui ont eu un discours toujours assez ambigu sur « oui, mais le marché, c'est quand même bien, mais il faudrait réguler, mais avec toujours aussi ce discours de nécessité de la libéralisation et qui finalement ont clairement perdu la bataille des idées et aussi tout simplement parce qu'ils étaient clairement moins nombreux à peser à la fois dans les États membres et dans les différentes institutions européennes. Et pour en revenir donc un petit peu plus précisément à la question de la sécurité sociale, se greffe par rapport à la sécurité sociale tout le débat sur la modernisation de l'État-providence. Il y a une grosse littérature aussi en politique publique là-dessus, où là encore l'Union européenne n'a que des compétences que résiduelles, mais où la Commission anime un débat permanent entre les États membres, essaye de diffuser les bonnes pratiques à travers la méthode ouverte de coordination. Et là encore, on voit qu'il y a une croyance extrêmement forte chez une immense majorité d'acteurs, selon laquelle la modernisation passe nécessairement par le marché. Dernier élément qu'il faut souligner, qui est assez peu analysé, mais il y a les travaux d'un chercheur d'Oxford, Marek Natsik, qui lui s'est penché vraiment aussi sur le rôle des lobbies financiers, des lobbies du secteur des assurances, etc., sur les réformes politiques en matière de système des pensions. Et donc clairement, c'est un élément qu'il faudrait pas ignorer si on ne veut pas être naïf aussi. Et je pense que le même type d'enjeu se retrouve quand on parle de sécurité sociale, c'est-à-dire qu'à partir du moment ça ouvre, ça crée un marché, c'est-à-dire que ça recommodifie très précisément, et donc ça crée un business potentiel pour toute une série d'acteurs. Dernier point, c'est quand même important de souligner les effets de la crise de la dette dans le contexte actuel, qui est un accélérateur assez puissant de toutes ces tendances lourdes que je viens d'aborder. Ce qui est assez paradoxal, puisque d'un côté, la crise financière qui a éclaté aux États-Unis, on avait pensé dans un premier temps en tout cas qu'elle démontrait précisément les dérives du capitalisme financier et pouvait peut-être réhabiliter la logique publique, le rôle des autorités publiques, la nécessité de plus réguler, etc., etc. Et puis, lorsque la crise a touché l'Europe, il y a eu un glissement assez fort dans le débat politique et un recadrage autour de l'idée, la responsabilité des acteurs privés et de la fabrication de la dette privée a été occultée au profit d'un recadrage sur la question du problème des dérives des finances publiques et des déficits publics. Et donc, évidemment, ce recadrage a eu une série de trois conséquences assez importantes sur le plan du discours et des idées. Ça a contribué à décrédibiliser davantage la logique d'intervention publique dans l'économie. Et sur le plan pratique, évidemment, les politiques d'austérité qui ont été mises en place en réponse à la crise de la dette réduisent de manière drastique les moyens financiers à disposition des États. Donc on a une accélération de la réforme des États-providence qui touche l'Europe du Sud évidemment de manière dramatique, mais qui touche à peu près tous les pays de l'Union européenne. Et du coup, un basculement qui s'accélère d'un certain nombre de services de la sphère publique vers des acteurs privés. Et donc, de fait, une légitimation d'autant plus forte de la recommodification des services qui répondent à des besoins essentiels et qui assurent la cohésion sociale. Alors, pour conclure, est-ce que le marché peut s'occuper de la sécurité sociale ? On ne sait pas très bien parce que ce n'est pas véritablement encore le cas, mais est-ce qu'on peut tirer quelques minces enseignements de la privatisation d'autres services publics ? D'abord, c'est difficile parce qu'on a très peu d'éléments, on a très peu d'évaluation. La Commission, en ce qui concerne les industries de réseau, donc tout ce qui est énergie, transport, etc., avait commencé à mener des évaluations, mais elle en tirait des conclusions assez biaisées, elle a arrêté. Il y a quelques études universitaires qui ont été menées, mais les décideurs s'en lavent les mains. Les pistes de constat qu'on a, c'est que, qui sont assez intéressantes et qui doivent être nuancées, c'est qu'il n'y a pas de systématicité, il n'y a pas d'automaticité en fonction de la nature publique ou privée de l'entité qui fournit ces services. Et c'est la même chose en matière de partenariat public-privé pour les financements. Donc ça dépend véritablement des conditions dans lesquels ces services sont fournis. Donc, en d'autres termes, ce qui est important, et c'est un peu la logique aussi ordolibérale, c'est que peu importe s'il y a un mandatement ou si l'État ou les autorités publiques décident de ne pas fournir eux-mêmes les services, à partir du moment où on a un contrôle et une régulation efficace pilotée par les autorités publiques. Mais précisément, c'est bien là que le bât blesse. D'abord parce que ces réglementations, cette régulation, elle est très complexe, très difficile à mettre en place, difficile pour que ce soit efficace. Et puis, il y a donc tout problème de ce qu'on appelle la capture réglementaire ou régulatoire, où on a assez rapidement une influence des groupes privés sur les décideurs politiques, ce qu'on a vu dans la finance aux États-Unis, mais qui existe en fait dans tous les secteurs, où on a une collusion aussi entre des décideurs politiques et des grands responsables de groupes privés, hein, les phénomènes de pantouflage, de revolving doors, des gens qui passent de l'un à l'autre, etc. Et donc, quand on observe certains développements aux États-Unis, en particulier dans le secteur des assurances, de l'assurance santé et aussi dans les fonds de pension, en réalité, c'est vrai qu'il y a des motifs d'inquiétude quant à un basculement assez radical de la sécurité sociale vers le marché. Et je finirai en rebondissant sur un élément d'actualité qui est la fermeture assez brutale de la télévision publique grecque, qui est assez symptomatique, je dirais, du climat dans lequel on est. Là encore, je pense que ce genre de phénomène vient beaucoup du fait que on est dans une situation où, dans beaucoup d'endroits, on a le sentiment que la modernisation passe nécessairement par le marché, aussi du fait d'une incapacité, d'une difficulté quand même réelle dans un certain nombre de pays ou dans un certain nombre de secteurs à moderniser correctement ou en temps et en heure un certain nombre de services publics. Et en ce qui concerne la sécurité sociale, je pense que les marges de manœuvre au niveau réglementaire par rapport au texte européen sont encore suffisamment importantes que pour laisser, je dirais, l'urgente initiative au sein de chaque État membre de voir comment réformer son système avant d'en arriver à des situations extrêmes. Voilà, merci.